Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié aux États-Unis en 1985 sous le titre Amusing Ourselves to Death, Se distraire à en mourir est un essai de critique des médias du théoricien américain Neil Postman. Son objet central ne se limite pas aux programmes télévisés, il examine la manière dont les techniques de communication façonnent les formes du savoir, du débat public et de la vie collective. Postman compare notamment une culture dominée par la parole, une culture structurée par le livre et une culture organisée autour de la télévision. Sa thèse est que le support ne transporte jamais passivement les idées, il sélectionne les formes de discours qui paraissent naturelles, crédibles ou intéressantes. La télévision privilégie ainsi la vitesse, la fragmentation, les images et le divertissement, y compris lorsqu'elle aborde des sujets politiques, éducatifs ou religieux. L'essai propose une généalogie culturelle et une mise en garde démocratique, écrit avant la généralisation du web. Il fournit néanmoins des instruments solides pour penser les environnements numériques contemporains sans les confondre mécaniquement avec la télévision. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le médium organise la forme et la valeur des idées. Le principe directeur de Postman est que tout médium impose une manière particulière de définir ce qui compte comme information. Il ne suffit donc pas de juger les contenus selon leur exactitude ou leur intention, il faut observer les contraintes du canal qui les rend visibles. Une culture de tradition orale valorise la mémoire, la répétition et la présence des interlocuteurs. Une culture de l'imprimé favorise au contraire la continuité argumentative, la précision des formulations et la lecture attentive. Avec la télévision, l'image animée, la brièveté et la nécessité de retenir le regard deviennent des critères déterminants. Une idée doit pouvoir être montrée, simplifiée et enchaînée rapidement à une autre pour circuler efficacement. Cette logique ne résulte pas nécessairement de décisions malveillantes prises par des producteurs ou des journalistes. Elle provient des propriétés du média et de son modèle de captation de l'attention. Postman déplace ainsi la critique au-delà de la question des bons ou mauvais programmes. Même une émission sérieuse doit adopter les codes visuels, rythmiques et émotionnels de son support. Le livre invite donc à reconnaître que les outils de communication transforment les habitudes cognitives, les attentes du public et les normes implicites du discours public. Deuxièmement, de la culture typographique à la culture de l'image. Postman reconstruit un contraste historique entre une Amérique marquée par la lecture et une société façonnée par la télévision. Son propos ne consiste pas à idéaliser sans réserve le passé, mais à montrer que les pratiques intellectuelles dépendent des institutions matérielles de communication. Dans un environnement typographique, la participation civique et la discussion publique peuvent s'appuyer sur des textes longs, des discours suivis et des raisonnements dont la cohérence doit être évaluée. Lire exige de suivre une succession d'idées sans le soutien immédiat de images séduisantes. Cette discipline rend possible une attention prolongée et donne une valeur sociale à la formulation logique. Postman souligne que les débats politiques du 19e siècle américain pouvaient durer de longues heures, signe de normes culturelles différentes quant au temps, au langage et au public. La télévision ne rend pas la réflexion impossible, mais elle modifie fortement les conditions de sa réception. Elle favorise le passage rapide entre les sujets, le primat de la présence visuelle et une compréhension plus discontinue. Le contraste sert à établir que la difficulté contemporaine de soutenir une pensée longue ne relève pas seulement de dispositions individuelles. Elle correspond aussi à un milieu médiatique qui récompense la stimulation immédiate plutôt que la continuité intellectuelle. Troisièmement, la victoire de Huxley sur le modèle de Orwell, le cadre le plus connu de Essai, oppose deux visions de la domination culturelle. Orwell redoutait un pouvoir qui supprimerait les livres, interdirait les idées et surveillerait les individus. Huxley imaginait plutôt une société où la liberté intellectuelle se dissout sous le poids des plaisirs, des distractions et de la surabondance. Postman estime que le second danger décrit mieux la culture télévisuelle. Le problème majeur ne serait pas le silence imposé aux informations importantes, mais leur dilution dans un flux incessant de contenus concurrents. Quand chaque nouvelle doit céder rapidement la place à une autre image, à une séquence légère ou à une publicité, sa gravité peut être neutralisée sans être niée. Le public reçoit beaucoup de faits, mais dispose de peu de temps et de peu de cadres pour les relier à une action, à une responsabilité ou à une compréhension durable. Cette abondance peut produire une forme de passivité, savoir brièvement ce qui arrive partout ne signifie pas pouvoir juger, hiérarchiser ou agir. Postman ne décrit donc pas seulement la distraction comme un loisir excessif. Il analyse une situation où le divertissement devient la forme dominante de la connaissance publique et où le sérieux lui-même doit se présenter sous une forme divertissante pour obtenir une audience. Quatrièmement, les nouvelles télévisées transforment le monde en suite de spectacle. Une part essentielle de la critique vise le traitement télévisuel de l'information. Le journal audiovisuel assemble les événements souvent éloignés, hétérogènes et sans relation pratique directe pour le spectateur. La succession rapide des reportages produit une impression de mouvement et de variété, mais elle limite la possibilité de situer les causes, les conséquences et les responsabilités. La formule de transition qui annonce le sujet suivant symbolise, chez Postman, cette rupture permanente de continuité. Une catastrophe. Un conflit, une décision publique et une séquence légère peuvent être placées dans le même format, avec une même obligation de concision et de renouvellement visuel. Cette mise en scène ne signifie pas que les faits soient toujours faux. Elle signifie que leur forme de présentation les soumet à une logique de spectacle où la retenue de l'attention prime sur la maturation du jugement. Le téléspectateur est encouragé à ressentir, puis à passer au contenu suivant. Postman associe cette absence de lien entre information et action à une perte de pertinence des nouvelles très nombreuses peuvent devenir socialement inertes lorsqu'elles ne fournissent ni contexte durable ni prise réelle. Cette analyse éclaire la différence entre être exposé à un flux mondial et être effectivement informé. En dernier lieu, politique, publicité et éducation sous la contrainte du divertissement, Postman étend son analyse bien au-delà du journal télévisé. Dans la politique médiatisée, la personnalité, la photogénie, le ton et la formule brève risquent de prendre le pas sur la confrontation des programmes. Un responsable politique doit paraître convaincant dans un cadre visuel et temporel qui rend difficile le développement patient de arguments complexes. La publicité offre un mécanisme voisin, elle ne cherche pas prioritairement à démontrer les qualités concrètes d'un produit, mais à associer celui-ci à des images, des émotions et des styles de vie. Postman observe aussi que l'éducation télévisée ne peut être évaluée seulement par la noblesse de ses objectifs. Si apprendre doit systématiquement ressembler à un spectacle, les élèves peuvent intégrer que tout savoir valable doit divertir immédiatement. Le problème ne réside donc pas dans la présence de plaisir ou de l'image dans la vie publique. Il apparaît lorsque la distraction devient la condition générale de la visibilité et de la crédibilité. En reliant politique, publicité, religion et école, le livre montre une transformation de la culture plutôt que les défauts isolés d'un secteur. Cette extension explique la portée de l'essai, il analyse comment une forme médiatique peut redéfinir les critères mêmes de sérieux, de vérité et de participation civique. En conclusion, se distraire à en mourir intéressera les lecteurs de sciences des médias, de philosophie politique, de pédagogie et de culture numérique, mais ne requiert pas de formation spécialisée. Il est particulièrement utile pour qui cherche à distinguer la quantité de contenu reçu de la qualité d'attention, de compréhension et de jugement effectivement disponible. Le bénéfice intellectuel majeur du livre est de fournir une méthode au lieu de demander seulement si un message est vrai ou faux, il faut demander ce que son médium rend facile, difficile, visible ou presque impensable. Cette perspective aide à examiner avec plus de précision les journaux audiovisuels, les campagnes politiques, la publicité et, par prolongement prudent, les plateformes numériques. La lecture ne commande pas un refus simpliste de toute technologie. Postman insiste surtout sur le fait que les techniques ne sont pas neutres et que leur adoption doit être accompagnée de lucidité culturelle. Ce qui distingue cet essai de nombreuses dénonciations des écrans est son ancrage historique et formel. Il ne réduit pas la question à la manipulation, à la baisse supposée de l'intelligence ou à une nostalgie vague de la lecture. Il compare des régimes de communication et montre comment chacun organise le langage public. Sa référence à Huxley donne aussi une force particulière au diagnostic. Une démocratie peut être fragilisée moins par interdiction de pensée que par une abondance de distractions, qui rend la pensée soutenue moins habituelle. Malgré son contexte télévisuel, le livre demeure un repère analytique pour interroger les conditions médiatiques de la vie démocratique. Si vous souhaitez soutenir Neil Postman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.